My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bienvenue à toutes et à tous dans Les Enfants du Nouveau Monde. On est au mois de juillet. Vous les entendez, les cigales? Voilà, on est dehors. Il fait chaud. Et tous les insectes sont de sortie en cette saison estivale. Et notamment, un insecte qui a un rôle prépondérant dans la biodiversité, ce sont les abeilles. Et oui, puisque les abeilles, elles font partie des insectes pollinisateurs. Donc sans ces insectes pollinisateurs, pas de reproduction du monde végétal. Et sans reproduction du monde végétal, eh bien, croyez-le ou non, ce serait la famine. On n'aurait plus de fruits, plus de légumes, plus de céréales, plus rien à consommer. Alors, effectivement, ces insectes pollinisateurs ont un rôle crucial. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que leurs populations sont en danger, sont en diminution énormément partout. Beaucoup à cause des pollutions et des pesticides. Alors, pour parler de tout ça, pour parler des abeilles et mieux les comprendre et pour pouvoir mieux les protéger aussi, je suis allée à la rencontre de Maurice Rouvière. Maurice Rouvière, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Oui, avec plaisir.
Alors vous êtes apiculteur depuis longtemps et vous avez beaucoup cheminé, c'est-à-dire que vous avez commencé dans une apiculture classique, on va dire.
Tout à fait, oui, avec des ruches modernes, des ruches à cadre, parce qu'à l'époque on nous disait que c'était les mieux, voilà, les abeilles il fallait les mettre là-dedans, les récoltes étaient mieux.
Voilà, on pensait vraiment à la récolte, essentiellement en apiculture comme dans tous les secteurs de l'agriculture, on pense résultat, on pense productivité, on pense récolte.
Voilà, tout à fait, et c'est encore le cas. Parce que maintenant, il faut que les ruches produisent de plus en plus. Et on est dans la production et on cherche... J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur un journal que je ne vais pas nommer, où j'ai lu ce qu'on recherche dans les gènes de l'abeille, c'est la productivité.
Donc aujourd'hui, on sélectionne les abeilles pour avoir les plus productives, celles qui créent le plus de miel.
Alors, on sélectionne les abeilles qui ne piquent pas.
En plus.
Qui ne s'échappent pas pour les essaimages. Qui produisent énormément de miel pour le confort de l'apiculteur. Mmh. Mais on ne tient pas compte de sa vie à l'abeille. Ce qu'il faut étudier, ce n'est pas ce qui va rentrer dans le porte-monnaie. Ce qu'il faut étudier, c'est le rôle de l'abeille dans la nature. Mmh. Il faut étudier, c'est comme si on étudiait un animal sauvage et qu'on veuille le protéger. Il faut le connaître, je crois, non ?
Bien sûr.
Donc l'abeille, c'est pareil. Il faut arrêter de faire toujours ces stages où on a de pratiques.
Parce que comme vous me disiez, dans les stages d'apiculture classique, on réfléchit, il y a la technique, et deux, le résultat. Quoi.
La technique, le sanitaire, les produits...
pesticides, du coup, qu'on va utiliser.
On va essayer, ils ont beau dire que nous chanter la messe, mais la mitrase, c'est des insecticides. C'est des insecticides qu'on se servait dans le temps pour traiter les poiriers, les pommiers, pour éviter les insectes.
Et aujourd'hui, on les utilise dans les ruches.
Il y a encore ces molécules dans les lanières et tout ça, et on rentre ça dans nos ruches. Mais on rentre quand même pour tuer un acarien qui est le varroa.
Le varroa qui est un fléau de l'abeille, c'est un genre de poux, de tic qui va se coller sur les larves des abeilles.
Et mais le varroa, on fait une fixation sur le varroa, mais est-ce que le varroa n'attaque pas les ruches faibles ?
Bien sûr.
Une ruche qui est en bonne santé, qui sait naturellement se défendre elle n'a pas ce problème de varroa, où il est limité, il est en tolérance. Donc on voit bien qu'il y a un problème dans ces méthodes d'apiculture.
Ah, en fait, on peut vraiment faire le rapprochement entre les méthodes d'agriculture et les méthodes d'apiculture, c'est-à-dire que plus on tend vers la productivité au détriment du respect de la plante, hein, tout simplement du respect de la plante ou de l'abeille, du respect de l'être vivant, en fait, on va sélectionner pour avoir vraiment la productivité avant tout, etc. On va affaiblir, en fait, la génétique de l'être vivant.
Ça s'appelle, en résumé, en un seul mot, la croissance. Toujours plus. Et encore plus. J'ai 500 ruches.
Sauf qu'on arrive à avoir du toujours moins au final, parce qu'on arrive avec des abeilles qui sont affaiblies, comme vous le dites, des ruches affaiblies, où aujourd'hui un apiculteur sur 500 ruches, il en perd 200 ou 300 tous les ans.
Bien sûr.
Donc il y a un renouvellement perpétuel et la mort est au rendez-vous.
Le problème, c'est que c'est caché avec des remplacements par des subventions et tout ça, où on voit des plateformes où on appelle aux dons parce qu'on a perdu 300 ruches. Mais moi, ça me révolte, parce qu'avant de parler de perte de ruches, on sait même pas de quoi sont mortes les ruches. On ne sait même pas si les autres apiculteurs autour, ils ont eu des pertes. Donc, il faut arrêter, il faut chercher des solutions au problème.
Alors, Maurice, pour tous nos auditeurs et auditrices, essayons de comprendre justement ce que c'est que sont les abeilles et comment elles fonctionnent, comment elles vivent. Déjà, juste pour savoir, une ruche, normalement, ça vit combien de temps, si tout va bien ?
Ben, il faut pas voir comme ça, c'est pas la excusez-moi mais c'est pas la ruche qui vit, c'est la grappe, l'animal qui est dans la ruche qui vit. Et c'est quand je dis ça tout le monde comprend pas pourquoi il y a un animal dans les ruches, parce qu'il faut pas voir des abeilles, il faut voir l'ensemble des abeilles qui s'appelle la grappe ou l'essaim.
D'accord.
C'est un essaim, c'est une grappe. Un essaim, si vous voulez, il est composé de cellules qui sont des abeilles.
D'accord.
Vous avez une ossature dans l'essaim, parce qu'on peut le comparer à un mammifère. Il a une ossature, seule l'ossature sont ses rayons de miel, ou ses rayons où elle fixe la couveuse. Il a du gras. Le gras, c'est le miel, parce que le miel joue un rôle contre l'essaim de protecteur en gardant la chaleur, qui bloque l'entrée du chaud ou du froid, et il joue aussi un rôle dans le cycle de l'eau des ruches, qui s'appelle une éponge. Il a le rôle d'une éponge, puis il absorbe la condensation de la respiration de la grappe.
D'accord.
Donc, si vous voulez, c'est le miel, faut pas voir ça comme un produit à tartiner. C'est un grand, c'est le problème, ça. Il faut voir ça comme un produit
indispensable à la survie de la grappe d'abeille, comme vous dites.
Donc, dans cet essaim, vous avez un ovaire. Un ovaire qui fait que pour la reproduction, il pond. Son rôle, c'est de pondre. Ça s'appelle la reine. Donc, vous voyez bien que cet essaim, il vit, il a une température, comme un mammifère, de 36-37 degrés. Donc, si vous mettez les mains tous les séjours au milieu de cette grappe, vous faites des chocs thermiques.
Si on met quoi au milieu de cette grappe ?
Les mains, comme ils font dans les ruches modernes.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on sort, l'ouvre, on n'arrête pas
de... On l'ouvre, on sort sans arrêt les cadres pour faire voir aux copains, ou pour faire voir dans les stages. Mais les ruches qui sont faites pour faire les stages, elles sont mortes d'avance. Donc on ouvre, il faut savoir que quand vous ouvrez une ruche, il faut laisser 20 heures pour venir à sa température. Donc quand on ouvre des ruches à 5 heures de l'après-midi, les nuits sont fraîches. Attention, l'apiculture... C'est un métier d'art, c'est un métier de nature. La nature, c'est de l'art. Mais ce qu'on cherche chez l'abeille, c'est la productivité, la croissance et le rendement. Mais il faut arrêter avec tout ça. Ce n'est pas des moutons, ce n'est pas des vaches, ce n'est pas des cochons.
Et d'ailleurs, même les moutons, les vaches et les cochons, ils aimeraient bien s'en passer aussi de cette productivité à outrance. Et du coup, c'est ce qui crée, à votre avis, en partie, les grosses pertes qu'il y a aujourd'hui en apiculture.
Alors, je vais toucher un mot, puisque vous m'y emmenez là-dessus. Oui. On a aussi les pesticides. Ça déplaise à certains, je le dis haut et fort. On est mardi. J'habite ici, à côté des viticulteurs. Depuis vendredi, ils ont traité 3 fois. Il est tombé 2 gouttes d'eau hier soir. Ce matin, on était dans les champs en train de traiter. Ça, je peux vous certifier qu'il y a des ruches ici. On ne se tient pas compte s'il y a des apiculteurs à côté, on traite. Il y a des ruches ici, en test. Les abeilles, hier soir, marchaient par terre, elles n'arrivaient plus à voler. J'ai pris une brindille pour les secouer, essayer de les faire voler. Elles retombaient par terre et elles marchaient. Des abeilles qui sont foutues par les pesticides. Alors qu'on ne nous bassine pas avec ça sans arrêt. Les pesticides, c'est fait pour tuer des insectes.
Bah, évidemment.
Donc on tue des insectes. Ce sont des armes de guerre. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça touche pas que les insectes, ça touche aussi les humains, quoi. Mm-hmm. C'est ça le problème. Et là, on n'en tient pas compte. Hein. De toute façon, je pense qu'on est dans des techniques où on crée des maladies avant qu'elles y soient pour faire plaisir au laboratoire.
Non, ça, c'est sûr.
Si mes mots dérangent, c'est pareil.
Oui, mais on en parlait avec Pierre Etchard, l'ostéopathe qui était venu au sein de la soirée des Jeudis des Colibris à Alès et qui nous confirmait qu'aujourd'hui, l'Organisation Mondiale de la Santé montre que sur la planète entière, il y a vraiment une dégradation de la santé humaine.
Bien sûr. Mm-hmm. Alors on vous dit...
Contrairement à ce qu'on nous raconte, que les progrès de la médecine, etc., certes les progrès de la médecine, mais de l'autre côté, il y a et puis des conditions de vie qui ne sont pas respectueuses du vivant, qui font qu'effectivement, notamment dû aux pollutions chimiques et des pesticides, etc., et des plastiques et de tout ce qu'on constate de partout... les gaz d'échappement et toutes les industries, bref, la pollution elle est à tous les niveaux et effectivement c'est une grosse source de problématiques sur la santé du vivant en général, pas seulement humaine, mais, et malheureusement souvent les animaux et les végétaux l'ont senti bien avant nous. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un métro de retard. Et aujourd'hui, on constate des malformations sur les enfants, par exemple, dont les mères ont été touchés par les pesticides pendant la grossesse. Ces malformations-là, notamment génitales, ça fait 30 ans qu'on les observe sur la faune, sur les poissons, les batraciens, etc. Donc, il est vraiment temps de réagir. Alors pourtant, ce que vous me décrivez là, et j'entends tout à fait votre colère, et je la partage largement contre ces pollutions, et en plus souvent les viticulteurs notamment qui traitent comme ça, et tous les agriculteurs qui traitent énormément aux pesticides, ne se reconnaissent pas souvent comme pollueurs, parce qu'évidemment les coopératives agricoles les incitent à aller dans ce sens-là, les subventions les incitent à aller dans ce sens-là, donc évidemment ils se reconnaissent pas du tout comme pollueurs. Donc là il y a un grand chemin à faire.
Mais il y a quand même un problème. Hein. Parce qu'on prend la voiture, on va chercher des produits, si on ne les trouve pas en France, on va les chercher en Espagne. Hein. Mm-hmm. Il faut voir ce qui remonte d'Espagne, hein. Même ici, dans notre village.
Oui, parce qu'il y a des produits qui sont interdits en France, mais qui sont encore autorisés en Espagne.
Ils se regroupent à 4-5 et il y en a un qui descend, hein, tant qu'on ne mettra pas le haut là, tout ça. Mais quand vous voyez qu'on vole des caves, des coopératives qui vendent des produits phytosanitaires, on vole les produits phytosanitaires, mais on ne va pas voler du blé pour nourrir des poulets. Hein. Alors, il y a un problème.
Et pourtant, donc, malgré ce que vous constatez autour de chez vous, vous êtes quand même dans un village labellisé zéro pesticides, zéro phyto.
Oui.
Alors, comment c'est possible ?
Ben, c'est possible parce que les mairies et les responsables de ces secteurs font énormément d'actions justement contre tout ça.
Contre les pesticides. C'est de l'ordre du privé, après.
Moi, je leur dis, chapeau, parce que déjà, une commune qui va dans ce sens, c'est déjà un grand pas. Et quand on voit qu'ici, les employés de la commune n'ont même pas le droit de traiter une herbe au cimetière. Mmh. Donc, mais enfin, ils ont été nommés terre saine, c'est pas pour rien, quand même. Donc, mais pour toucher c'est pas touché, c'est de leur amener d'autres solutions, ces gens-là.
Tout à fait.
C'est pas... Donc là, on les incrimine pas. On essaye de leur amener d'autres solutions. Mais il faut qu'ils nous écoutent. C'est là le problème.
Alors,
c'est qu'ils veulent pas nous écouter.
Peut-être que là, il y en a qui tomberont sur cette émission. On va justement en parler de ces solutions. Qu'est-ce qu'il y a donc comme solution aujourd'hui pour des alternatives aux pesticides?
Il y a une solution. Ça sera de venir à la fête de l'abeille le 8 octobre. Je fais venir des gens... des conférenciers, dont un qui est en viticulture. Je donne pas son nom, il vient à la fête de l'abeille.
On peut le dire, c'est Louis Julien.
Oui, alors je l'ai rencontré, j'ai vu ses terres, j'ai vu ses vignes. Alors comment ça se fait que lui peut y arriver et pas les autres? Il faut faire des sélections, c'est comme dans les abeilles, il faut faire des sélections.
Des sélections alors parce que...
Sur le pied de vigne, et chez nous sur nos races d'abeilles. Moi j'entends dire l'abeille noire, on fait de l'abeille noire, c'est devenu à la mode. Faire de l'abeille noire, elle est où l'abeille noire? Elle n'existe pas. Elle a tellement été croisée qu'on est sur des hybrides. On a changé tous les gènes de l'abeille. Moi, mes ruchers sont qu'en abeille locale. Je ne peux pas dire abeille noire parce que ce serait mentir. Donc, on fait des dérives sans arrêt sur les noms, sur les mots, sur ce qu'il faut faire.
Reçois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins aux vibrations bien trop pur pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. C'est que le charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger, pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama.
Vous écoutez Radio 16 et c'était la rappeuse sensible et engagée Kenny Arcana avec le titre Pachamama. Oui, notre terre mère, notre terre nourricière est en souffrance actuellement sous le fléau de la pollution et de la division, des guerres des humains. Une espèce en particulier est également en grande souffrance, ce sont les abeilles, filles de la lumière et du soleil, qui distribuent l'abondance dans le monde végétal. Les abeilles souffrent aussi de la folie des humains, des pluies de pesticides qui sont déversées dans la nature, du recul des forêts, de la disparition des fleurs sauvages et de la biodiversité. Aujourd'hui, dans Les Enfants du Nouveau Monde, nous sommes avec un apiculteur à part, un apiculteur défenseur des abeilles. C'est Maurice Rouvière, qui, à Lédignan, vient de créer l'association Abeilles et Sagesse.
Donc en fait là ce que vous dites c'est vraiment déjà choisir soit des plantes ou des abeilles, quel que soit notre métier, qui sont adaptés vraiment au territoire local, à la flore, au sol, etc.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. L'abeille, c'est que vous mettez une abeille, vous prenez une abeille d'ici, une des miennes, qui est habituée au vent et à la sécheresse. Allez la mettre en Normandie, elle capote tout de suite, c'est fini, elle ne sera pas habituée à l'humidité. Prenez une abeille de Normandie, vous la mettez ici, elle ne sera pas habituée au vent, elle ne saura pas gérer sa récolte quand il n'y en a pas.
Donc moi, ce que j'entends aussi dans ce que vous nous dites, c'est l'importance d'une diversité, du coup, de races et d'espèces.
Et de plantes.
Et de plantes, évidemment.
Parce qu'en ce moment, on s'aperçoit qu'on va faire des actions, demain j'ai des rendez-vous pour ça, mais on va faire des actions pour des ensemencements. Parce que si on ne donne pas à manger aux abeilles... Prenez 50 brebis, mettez-les là, ici. Là. Si on ne leur amène pas du foin, elles vont y péter. Là. Donc les abeilles, c'est pareil, si elles n'ont rien, on coupe les arbres. Un arbre creux, elles n'en ont plus pour se loger, pour essaimer. Il va falloir refaire des nids pour les abeilles, des nichoirs. Parce que où voulez-vous qu'elles se logent? C'est pour ça qu'elles choisissent ces cheminées, elles n'ont plus d'endroit.
Oui, parce que l'endroit favori d'une abeille pour essaimer, c'est un arbre creux. Oui, les arbres creux, ça veut dire souvent que c'est un arbre mort, voilà. Mais qu'on a laissé sur pied. Parce que justement, comme on le répète souvent, un arbre mort qui est sur pied, ben, ça devient le nichoir de toutes sortes d'oiseaux, insectes, etc. Et ça a une importance fondamentale pour la biodiversité.
Tout à fait, c'est un arbre de vie, ça.
Voilà, un arbre mort est un arbre de vie. C'est important de le noter et de le comprendre, en fait. Il a vraiment son rôle jusqu'à sa désintégration en humus dans la forêt. Il a vraiment son rôle.
Or aujourd'hui, bah, malheureusement, avec les cultures, on a de moins en moins de zones de forêt, on a de moins en moins de zones mellifères, c'est-à-dire où il y a des fleurs sauvages.
Donc c'est pour ça que mes actions, mes efforts sont plus concentrés en ce moment sur les ensemencements, aider les associations qui se lancent là-dessus. Demain, j'ai rendez-vous sur un secteur ici. Je vais faire peut-être des actions un peu plus importantes à partir du mois de septembre avec des gens qui vont pouvoir m'aider là-dessus. Mais
alors, l'ensemencement, Maurice Rouvière, expliquez-nous de quoi il s'agit en fait.
Il s'agit d'ensemencer des plantes mellifères ou pollinifères, c'est-à-dire pour nos abeilles. Mais moi, je ne suis pas que pour nos abeilles. On a aussi nos insectes butineurs sauvages. Et c'est là le problème.
Vous
là.
Pouvez nous en citer quelques-uns?
Ben, vous avez les abeilles solitaires, les bourdons, les osmies et tout ça.
Papillons?
Papillons aussi, bien sûr, que c'est tout...
J'apprenais en discutant avec une personne férue d'écologie ce week-end qu'en Languedoc-Roussillon, on a le plus grand nombre de papillons de France. Donc c'est d'autant plus important aussi de leur donner de quoi se loger et se nourrir à tous ces papillons.
Ce terrain était mort ici. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire que des plantes mellifères.
Vous avez des plantes mellifères, ça veut dire des fleurs.
Ça veut dire des fleurs, ça veut dire j'ai ensemencé là ici une parcelle où il y avait de la facélie, il y avait du sainfoin, tout ça. Mais les fleurs, elles ne sont pas coupées quand elles sont en fleurs. Elles sont coupées après, quand elles ont commencé à donner leurs graines. Mm-hmm. Il faut que ça se ressème tout seul.
D'accord, donc on la laisse monter, on laisse faire sa fleur qui va effectivement nourrir les abeilles, les papillons
une
et tout.
Une fois qu'elle est sèche, on coupe.
Voilà. Pour que les graines puissent réintégrer le sol.
Bon, ça, on coupe parce que ma femme l'a demandé, ça serait moi, je ne l'aurais même pas coupé.
Vous l'auriez laissé sur pied.
Ça périt quand même. Hein. Mm-hmm. Mais vous avez des lavandes qui font joli. Les lavandes, en ce moment, tous les papillons, toutes mes abeilles sont dans les lavandes. Mm. Vous avez des arbres à papillons exprès. Donc, voilà, il faut jouer. Je joue, moi, que là-dessus, moi. Du thym, l'hysope. L'hysope, c'est une plante...
Je sais pas si une plante magnifique qui a des bons usages aussi en pharmacopée.
Oui, tout à fait.
Une très
bonne
plante pour les voies respiratoires, pour l'hiver, en tisane et tout ça.
Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire donc ?
Il y a de la mélisse aussi, l'herbe aux abeilles. La mélisse en égyptien, c'est l'herbe aux abeilles.
Ah bon, d'accord, elles adorent la mélisse.
Ben, vous passez de la mélisse pour attirer un essaim, vous verrez que ça y fait.
Ah, très bien.
Si on trouve des essaims quoi, en l'état sauvage.
Et aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup.
Pratiquement plus, parce qu'on apprend justement dans les cours apicoles aux stagiaires d'ouvrir les ruches tous les 6 jours pour détruire les cellules royales pour empêcher que la ruche essaime.
Alors, on revient justement sur les abeilles et là, vous allez nous expliquer comment ça se passe au niveau de la reproduction de l'essaim. Donc, comme vous dites, en apiculture classique, une fois qu'ils sont contents d'une reine, les apiculteurs, ils veulent la garder et quand il y a d'autres reines qui apparaissent dans la ruche, ils ouvrent et ils les suppriment.
Le problème, c'est qu'ils changent maintenant, les reines ne valent plus rien. Ils peuvent les acheter à droite et à gauche. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on mélange les gènes de nos abeilles sauvages. Donc on arrive à bâtardir et affaiblir les insectes sauvages qui ont une résistance par les gènes. Parce que toutes ces reines qui arrivent en petite cagette là, avec leur accompagnatrice, est-ce qu'ils nous prouvent qu'elles sont saines? Est-ce que les accompagnatrices n'emmènent pas des maladies?
Aujourd'hui, on achète une reine, en fait.
Vous en voulez une, vous l'achetez je vais pas citer chez un fournisseur, ou vous les achetez en Égypte, au Chili. Moi, j'en ai eu qui sont arrivés d'avion et tout ça, moi, quand j'étais dans la profession.
Aujourd'hui, ça se passe comme ça en apiculture.
Mais bien sûr, vous achetez 2 reines, 3 reines, 10 reines, 100 reines, 200 reines, 300 reines.
D'accord, donc ils n'ont rien à voir avec la population d'abeilles qu'on a dans la ruche, et on vient implanter une nouvelle reine.
Déjà, la reine qu'on implante dans une grappe, il faut voir la grappe, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un intrus par rapport à la grappe.
Tout à fait, oui.
Donc, tous les apiculteurs ne se vantent pas le nombre de reines qu'ils perdent.
Mm-hmm. Parce que il y a une technique d'approche où on les met dans une espèce de cage où les autres abeilles ne peuvent pas la tuer jusqu'à ce qu'elle s'habitue, etc.
C'est encore plus compliqué. Il faut enlever les nourrices. Donc, si vous voulez, on vous dit d'enlever la cagette 3 jours après, les fournisseurs. Ah oui, chapeau, bravo. Oui. 3 jours après, vous avez la reine qui court sur la tête des cadres. Alors, elle est marquée, soi-disant. Alors elle court sur la tête des quatre parce que les autres de la grappe s'aperçoivent que la reine court et elle s'aperçoit très vite que c'est une intrus qu'on a introduit. Donc elle est morte. Mmh. Donc pour introduire une reine, il faut la laisser jusqu'à ce qu'elle refasse une descendance de ses propres filles.
D'accord.
Pour qu'elle soit de la souche mère de cette reine. Mmh,
d'accord. Donc ouais. C'est long.
C'est très long.
L'introduction d'une nouvelle reine.
C'est pour ça que bon, je le dis jamais assez. On n'ouvre pas les ruches systématiquement. Mmh. Moi, j'ai des ruches d'enfer voir pour les stages et tout ça. Elles sont ouvertes que 3 fois par an. Mmh. Alors, mais celle qui meurt en premier chez moi, encore une hier, c'est une ruche d'Adam. Les ruches à feuilles que j'ai...
Donc les ruches d'Adam, c'est les ruches classiques, carrées, à cadre. Maintenant, vous travaillez sur un autre type de ruche.
Moi, j'ai... Les études m'ont amené à étudier les abeilles. Mmh. Donc, je me suis intéressé de plus près à ces espèces. Et je me suis aperçu que j'avais tout faux dans ma méthode de travailler avec mes ruches à cadre. C'était pas ma conception, moi. Moi, je peux dire entre parenthèses, le miel, je m'en fous. Donc, pour faire l'apiculture que je fais de biodiversité et de défense de l'abeille, il faut aller dans le sens de la grappe, de l'abeille, de sa vie. Mmh, faut l'étudier, c'est elle qui doit nous donner.
Et alors, qu'est-ce que ça vous a enseigné sur...
Ça m'a enseigné que la grappe, si vous voulez, l'hiver, elle est petite, et l'été, elle s'est élargie, elle est élastique. Ça m'a enseigné, si la grappe est élastique, la ruche doit être juste la peau de la grappe.
La peau. Oui, donc ça elle doit être élastique aussi.
Donc voilà, vous avez tout compris. Donc la ruche doit s'agrandir en même temps que ma grappe. Mm-hmm. Et la grappe s'agrandit s'il y a beaucoup de nectar dans la nature. Mm-hmm. Donc vous voyez qu'il faut être observateur, botaniste et tout ce qu'on veut. Si vous avez beaucoup de nectar, votre essai s'agrandit. Si l'essai s'agrandit, il faut agrandir votre ruche. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que j'ai des ruches à feuillets, moi. C'est les feuillets qui agrandissent ma ruche. Et l'hiver, si c'est feuillet, pas l'hiver, au mois de septembre, si les feuillets ne sont pas garnis en cire, il rentre à l'atelier et je comprime mon essaim sur ces cires. Mais, je vais vous le redire aujourd'hui, je l'avais dit encore il n'y a pas longtemps dans une interview, il faut faire construire de la cire aux abeilles. Mmh. C'est une nécessité. Mmh. Et on s'aperçoit très bien dans mes expériences, vous regardez ça, vous allez voir que dans une ruche à cadre, j'avais fait une étude là-dessus, où j'ai supprimé des cadres pour donner la possibilité à mes abeilles de construire. Vous voyez très bien que les cires du commerce, ce sont des plaques qu'on met sur des fils pour les souder. Donc on met une plaque et ça s'appelle la cire gaufrée du commerce. Mm-hmm. Les abeilles, elles ne touchent pas. Et vous voyez ce qu'elles ont fait.
Donc dans une ruche, là, il y a une très belle photo où on voit que effectivement les cadres ne sont pas du tout garnis, pas occupés par les abeilles.
On a laissé un espace là, et là, j'ai laissé un espace complet.
Voilà, par contre,
j'ai pris 2 morceaux de bois que j'ai trouvés dehors pour faire mon expérience.
Et elles ont suspendu à ces morceaux de bois vraiment
Elles ont construit leur cire, et c'est ça, je reviens toujours sur la chaleur. Elles ont construit la cire dans la chaleur du corps de la grappe.
Voilà, donc
c'est-à-dire
ça fait
les
comme
paillettes qui sortent des orifices, l'abdomen des abeilles qui sont nourrices, cirières, je veux dire, pas des nourrices, c'est des cirières.
Celles qui font la cire.
Elles produisent des paillettes. Donc, j'ai écrit dans le bulletin de l'association, pour faire de la cire, les abeilles mangent du miel, parce qu'on m'attaque, je vous dis, oui, mais si les abeilles construisent de la cire, elles consomment 1 kilo de cire, 10 kilos de miel, qu'on me le prouve. Il est sûr que les abeilles, pour faire de la cire, s'engraissent, puisqu'il faut qu'elles transpirent des paillettes de cire. Mmh. Donc ces paillettes, mais les ruches qui fabriquent leur cire, et les ruches qui sont avec des cires gaufrées, les ruches qui fabriquent leur cire sont 2 fois plus dynamiques. Les abeilles sont 2 fois plus dynamiques que les autres. Mmh. Donc ça vous prouve que ce qu'elles consomment, elles vont le rentrer en substance végétale de l'extérieur.
Tout à fait. Mmh.
Donc voilà, il l'a prouvé là. Hein.
C'est
des photos faites...
Vous continuez à utiliser quand même des ruches carrées ?
Non. Oui, je les ai pour les stages, je vous dis, mais je vais les enlever. Elles m'énervent parce que...
Donc qu'est-ce que vous utilisez maintenant comme ruche ?
Des ruches à feuillets.
Vous pouvez me montrer une image ?
Oui, elles sont là-bas dans le jardin. Je vous en ferai voir. systématiquement, les abeilles ne touchent pas les cires du commerce.
Mmh. Ouais,
parce que même les cires du commerce qu'on vous vend en bio ne sont pas bio. Mmh. Puisqu'elles ont de la paraffine dedans. La paraffine, c'est quoi? C'est fait à base de pétrole. Et ça vient d'où? Ça vient de Chine. Donc, il faut, de toute façon, il faut que les abeilles fassent leur cycle.
Justement, leur cycle, on en parlait tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre qu'on soit venu au bout du cycle. En ce qui concerne l'essaimage, parce que du coup, la plupart des apiculteurs redoutent que leurs abeilles essaiment. Parce que essaimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un coup, il y a une deuxième reine qui va apparaître, et comme il n'y a pas deux reines qui vivent ensemble, il y a la première ou la deuxième, je ne sais pas, qui part avec la moitié de la ruche.
Ça part quoi, pourquoi, comment?
Il y a des explications. Expliquez-nous tout ça.
Un essaimage se produit, il peut y avoir une mauvaise exposition de la ruche. Il peut y avoir un déséquilibre de nourrice par rapport à la production et au travail qu'elles ont à faire.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'essaimage n'a pas lieu systématiquement. Non. Quand il a lieu, c'est parce qu'il y a un vrai besoin de la ruche de se déplacer, en fait.
De se diviser,
De se diviser.
Vous pouvez avoir aussi un essaimage à cause des maladies. À cause d'une surpopulation dans un emplacement réduit.
Un manque de nourriture dans l'environnement.
Et une fièvre d'essaimage. C'est quoi l'essaimage? C'est un mode de reproduction non sexuel chez l'abeille. Donc c'est quoi? Pour moi, c'est pas un défaut. C'est une production. Mm-hmm. Et c'est une production qui va dans mon sens, puisqu'on remplit les biotopes dans la nature.
Bien sûr.
Mais quand j'ai des gros essaims qui sèment de mes ruches, je dis rien, parce qu'il y a 50 apiculteurs qui vont courir derrière pour l'attraper. Là, j'en ai un qui est parti, là, mais je l'ai bien laissé partir. Il est dans la forêt. Mmh. Bon, mais il joue son rôle de repollinisation.
Mmh, tout à fait.
J'ai fait une conférence, j'aime bien le dire ça, j'ai fait une conférence où il y a un directeur des services vétérinaires qui s'est levé, qui me dit, quand vous parlez de l'essaimage, monsieur Rouvière, vous avez oublié une chose, c'est que l'abeille est faite pour nourrir l'apiculteur. Alors je lui dis, excusez-moi monsieur, rasseyez-vous, je vais vous expliquer. L'abeille qui fait un essaimage, elle va remplir par son essaimage les biotopes. Cet essaimage qui est dans un arbre ou ailleurs va réessaimer. La plupart du temps, si elles essaiment, c'est qu'elles ont une souche qui favorise l'essaimage. Mais je lui dis, qu'est-ce qui nourrit l'humanité? C'est pas le miel qui nourrit l'humanité. Et nous, apprenons-le aux jeunes, apprenons-le à tout le monde, c'est la pollinisation. Mm-hmm. Pas d'essaimage, pas de pollinisation. Alors, elles ont assez de mal avec tous les produits phytosanitaires et tout le reste. Moi, je dis...
Vous les laissez essaimer et choisir le lieu où elles s'implantent.
Je pleure pas. Mm-hmm. Si j'ai pas pu aller le chercher parce qu'il était trop haut, il y est resté. Donc, mais moi j'ai rencontré des apiculteurs qui travaillent avec des ruches à cadre qui me disent, et c'est ce qu'il faut faire, il faut au moins laisser deux ruches sur des grands ruchers pour l'essaimage. Après, il ne faut pas pleurer qu'on n'en trouve pas.
Donc, vraiment, ce que vous passez comme message auprès des apiculteurs, c'est vraiment de réaccepter cette notion fondamentale de participer en tant qu'apiculteur à recréer de la pollinisation dans la nature par l'essaimage.
Ils ne vont pas l'accepter parce qu'on cherche des souches non essaimeuses et il faut faire des productions de miel. Alors, une ruche qui essaime, votre production est coupée.
Elle est divisée par deux, bien sûr.
Donc, mais on va jusqu'à couper une aile aux reines pour pas qu'elles s'envolent. Vous voyez, jusqu'on pousse. On fait de l'insémination artificielle maintenant. On peut acheter des spermes, on peut acheter pour inséminer vos reines. Mais où on va là? Les reines sont pas besoin de nous. Quand elles ont besoin de se faire féconder, elles vont dans des zones que l'homme connaît pas, très chargées en faux bourdon, et elles vont se faire féconder. Mais il faut arrêter tout ça, de vouloir mettre le doigt là-dessus. La croissance.
De vouloir contrôler.
La croissance, il n'y a qu'une chose qui l'arrêtera, la croissance. C'est la nature.
Et de reprendre conscience à quel point, en fait, nous en sommes dépendants de ces fonctionnements de la nature qui nous dépassent complètement, qui sont très complexes, très subtils, et que l'humain revienne à sa place et arrête de vouloir contrôler tout ça.
Mais il ne faut pas contrôler parce qu'on ne pourra jamais le contrôler. Et la nature est tellement compliqué, pointu et tout, magnifique.
Laissons la faire, reprenons notre place et remercions pour la beauté qui nous entoure, tout à fait.
Parce que l'homme se croit supérieur, l'homme se croit en dehors de la nature, l'homme se croit pas de la nature.
Plus intelligent, il y a une grande arrogance.
Oui, même trop prétentieux.
Oui, c'est ça. Maurice, j'ai quand même une question, parce que...
la voie du juste milieu dans tout ça, parce que effectivement, en tant que pour un apiculteur qui en fait sa profession et qui est sur il repose tous ses revenus là-dessus, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie que ses abeilles sèment trop, etc. Vous, quand on vous entend, on a l'impression que tout votre travail d'apiculture est tourné vers la biodiversité, vers la repopulation d'abeilles partout dans tous les biotopes, etc. Est-ce que vous, quand même, vous profitez du miel que vous donnent vos abeilles ? Peut-être moins qu'un apiculteur intensif, mais...
J'en profite moins. Et le peu de miel que je fais, parce que moi, le miel, si vous voulez, je ne le ramasse pas maintenant. Là. Il va être ramassé à la première grande miellée en 2018. Vous voyez où je veux en venir ?
Non, c'est-à-dire que vous ne ramassez pas tous les ans ?
C'est si, ça ? Je ramasse tous les ans, mais quand les abeilles ont du nectar dehors à ramasser.
Donc, à
quelle
période ?
Ça veut dire qu'elles doivent passer l'hiver dans leur miel. Mmh. Et pour la santé que je vous ai expliqué, pour les questions de chaleur et tout ça, que si vous voulez, un essaim, quand il n'y a plus de couveuse, va quitter sa couveuse pour aller chercher une source de chaleur. Hein. Mmh. Mmh. Bon, nous, dans nos ruches, elles vont monter. Ça fait que ces abeilles sont sous leur chaleur et sous leur miel. Le miel est toujours un sirop épais. Elles peuvent le consommer facilement. Si vous êtes dans les ruches à cadre, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, c'est que les abeilles sont sur des miels qui se refroidissent parce que il y a du passage d'air de tous les côtés,
et oui,
sur la tête des cadres, contre les parois, en dessous.
Et oui.
Donc les abeilles ont besoin de chauffer leurs grappes. Mmh. Et donc elles dégagent une respiration chaude dans un espace froid. Mmh. Ils font de la condensation. Comme le miel est froid, il ne peut pas absorber cette condensation. Ça donne des gouttelettes d'eau sur la tête des cadres qui nous amènent des mycoses et des maladies.
D'accord.
Et quand les cycles de la chaleur se font sous les cloches de miel ou les serrées...
Donc
si
là,
voulez,
on parle vraiment des cires naturelles qui ont une espèce de forme de stalactite énorme comme
voilà,
ça.
C'est des rayons qu'elles font avec leur production. Elles y mettent des pollens, elles y mettent des propolis. Et la propolis, c'est un antiseptique de
naturel,
la ruche.
Oui, tout à fait.
Donc, dans ces ruches-là, si vous voulez, toutes les parois sont passées à la propolis.
D'accord.
Donc, c'est une fine peau sous la peau de la ruche, si vous voulez.
Qui empêche le développement des mycoses.
Donc, vos abeilles qui sont dans cette chaleur vont cracher une respiration chaude et respirer un air chaud.
Mmh.
Donc le miel, il devient chaud et elles vont pouvoir avaler sans aucune difficulté un sirop épais qui évitera les dysenteries.
Mmh.
Et on n'aura pas la condensation de l'eau qui amène les maladies.
Donc merci pour cette explication pointue qui nous fait comprendre que les abeilles ont besoin de vivre en contact du miel pendant l'hiver. La ruche a besoin d'être pleine de miel pendant l'hiver. Donc c'est une aberration de récolter avant l'hiver parce qu'on les laisse dans un espace de vie glacial.
Si vous voulez, dans une ruche moderne à cadre, vous allez mettre une hausse qui s'appelle une hausse, qui est la moitié du corps de ruche. Imaginez-vous le choc de suite qu'on met sur la tête de l'abeille à chauffer. Donc l'hiver, on l'enlève, on est obligé, elles sont enlevées, moi j'en ai enlevé hier, hein. Elles sont enlevées pour que les abeilles soient concentrées pour l'hiver. Mais moi, pourquoi je ramasse le miel pas au printemps, mais à la première grande miellée? Ça veut dire que nos abeilles, nos reines qui sont dans la région, il fait chaud, au mois de janvier il fait chaud ici. Donc elles commencent leur cycle de ponte. Elles descendent, elles vont chercher la couveuse et elles vont commencer à pondre. Vous enlevez le miel de la ruche, elles mangent quoi? Il n'y a pas de fleurs dehors au mois de janvier. Il n'y a rien, il faut attendre jusqu'au mois de mars. Hein, les premières fleurs, ça veut dire que le couvain qui est lancé meurt.
Mmh.
On a des comportements
sanitaires. Donc on récolte
sanitaires.
Pas après l'hiver, on les laisse passer la période de ponte, d'élever les...
C'est tout réfléchi chez moi. Le miel est ramassé quand il y a une concentration
une abondance
importante de nectar dehors.
Voilà, d'accord. Voilà. Et qu'elles peuvent se nourrir
donc,
à
si
nouveau
dehors. Donc j'enlève ce qu'elles me laissent.
Mmh, mmh.
Et en enlevant, elles remplacent. Elles peuvent remplacer.
Donc vous ne prenez pas tout quand vous récoltez?
Non, je ne prends pas tout, je leur laisse. Le miel est fait pour les abeilles, ce n'est pas fait pour moi. Donc moi, de toute façon, qu'est-ce que je fais? Je fais des morceaux avec les cires, puisque ce sont mes abeilles qui ont fait leur propre cire. Et puis, comme les alvéoles sont operculées, vous pouvez manger la cire, là. Vous n'allez pas vous empoisonner. Mais ne mangez pas les cires du commerce. Vous ne pourrez pas la manger, vous ne pourrez pas la mâcher. Mais si vous voulez, mon miel, quand il éclate dans la bouche, il n'est pas oxydé, puisqu'il est fermé. Vous avez les arômes qui se libèrent dans votre bouche. C'est un autre produit, un produit qui est désoperculé. Dès que vous coupez le couteau, le miel s'oxyde et le pH n'est plus le même. C'est pareil, le miel, c'est une nourriture pour les abeilles.
Mais alors, ce que j'entends là, donc, vous récoltez donc les pains de cire qui contiennent le miel, mais vous ne mettez pas le miel en pot ?
Non.
Ah bon ?
Non, pas bien, très rarement.
D'accord, donc vous consommez le miel uniquement sous forme de pain de cire contenant le miel.
J'en fais cadeau, quoi, parce que...
D'accord.
On découpe, c'est des petits cadres qu'on met, et les abeilles font leur cire et remplissent, et une fois que c'est operculé, on découpe le cadre et on met dans des boîtes... pour l'alimentaire. Mais ça, c'est un produit pur qu'il faut redonner le goût aux enfants, parce que les enfants, c'est pas ça. C'est
alors
tartiner en miel.
C'est bien qu'on parle de ça, parce que justement, c'est votre projet là, de faire des animations auprès des enfants pour les sensibiliser à tout ça, leur apprendre...
On a commencé déjà avec l'association que j'ai créée.
Donc Abeilles et Sagesse, basée sur les Dignans.
Vous avez vu que dedans qu'il y a un mot qui interpelle. Le bon sagesse, ça a dérangé beaucoup de monde, mais même des professeurs de yoga me téléphonent.
Ah oui ?
Parce que c'est spirituel.
Ça leur parle.
Mais l'abeille, elle est quoi ? C'est une fille du cosmos et de la lumière, l'abeille, qui se guide avec un magnétisme terrestre. Mais ça revient à parler des nourrissements. Quand les apiculteurs enlèvent leur miel, ils compensent des fois avec un pain de sucre candy pour donner à la colonie. Mais allons au fond des choses.
Oui.
Un pain de sucre candy, il est fait avec quoi ? Il est fait avec des plantes à racines. Donc, il est fait avec un produit terre. Les abeilles butinent un nectar aérien. Donc, déjà là, on n'a pas le même pH. On n'a pas la même production. Et les abeilles, chaque ruche doit consommer son propre miel. Parce que dans les miels, vous avez des propolis, et chaque propolis, dans les ruches, n'a pas la même identification.
Est adapté à ce dont a besoin
à chaque
cette ruche.
C'est pour ça que quand je fais mes alcoolats de propolis, si vous voulez, je fais un mélange de propolis que je récolte sur plusieurs ruches. Parce que toutes les ruches n'ont pas la même odeur.
Alors c'est plus riche.
C'est ce qui évite les dérives chez les abeilles, dans les ruches.
Oh! passionnément à la folie, à la vie et dehors. Est-ce la cagnard dans la ruelle? Est-ce la cagnard le vent si fort? Est-ce la cagnard comme tu sais? Est-ce la cagnard? On est là pour chauffer et on va chauffer tout ça.
Vous écoutez les enfants du Nouveau Monde et c'était Fleuve Congo avec le titre Welcome to Zouavia. Aujourd'hui, nous sommes avec un apiculteur un peu différent, c'est Maurice Rouvière, qui est un véritable défenseur des abeilles et qui œuvre pour une meilleure connaissance de ces insectes indispensables à la survie de l'humanité qui actuellement souffre beaucoup des bêtises de l'humanité. Selon Maurice Rouvière, les abeilles ne concernent pas seulement les apiculteurs, mais doivent aujourd'hui réintégrer tous les milieux naturels ainsi que les jardins. Parlons de cette fête de l'abeille alors, qui va avoir lieu le 8 octobre prochain.
Oui.
Donc il y a plusieurs conférenciers qui sont invités à venir à Lédignan, parce que c'est ici que ça se passe, hein, dans votre nouveau terroir, parce que vous venez d'Ardèche à la base, et puis ça fait pas très longtemps que vous êtes arrivé là. On est content, hein, de vous voir arriver là, parce que du coup ça va faire avancer très certainement les choses du point de vue...
Vous savez que j'ai des amis comme Pierre Rabhi, vous devez connaître
tout
sûrement.
Tout à fait.
Et je peux le dire quand même, c'est moi qui lui ai offert ma première ruche.
Sa première ruche.
Et sur son association qui gère la Blachère aussi.
Terre et humanisme.
Mon but, c'est pour ça que je fais des stages, c'est de former des gens qui vont pas dans mon sens, qui vont dans le sens des abeilles et de la nature, de la biodiversité. Mais malheureusement, on s'aperçoit quand ces gens-là qui gèrent des ruchers, ils arrivent à bien les gérer. S'il y a un changement de personne, les ruchers, ils s'effondrent.
Ah, oui.
Parce que c'est pas les mêmes
façons de faire.
Donc,
ça, on en revient, ça demande de la sagesse, vraiment, de gérer un rucher.
C'est pour ça que j'ai appelé. C'est la sagesse parce que les abeilles vous montrent une sagesse. Vous devez avoir la sagesse qu'on vous impose. Les abeilles vous imposent quelque chose.
Enfin, en tout cas, il faut savoir se mettre à l'écoute de ça.
Mais moi, quand vous venez sur mes ruchers, un jour, j'espère que vous viendrez.
Avec plaisir.
On n'est pas chez Maurice Rouvière. On est chez les abeilles.
Parce
que quand j'arrive, mes abeilles m'ont déjà entendu arriver avec les voitures, le magnétisme terrestre. Elles savent. Et quand il y a beaucoup de monde, elles n'ont pas le même comportement que quand je suis seul. Mais j'ai fait voir à des stagiaires, mais il y avait une journaliste aussi, et même le dernier personnage qui est venu pour m'interviewer avec sa vidéo, et vous le verrez si vous la regardez, la vidéo, je n'enfume pas mes abeilles pratiquement. Alors que vous savez qu'on a un enfumoir pour
fumer. Oui, tout à fait. Donc vous essayez d'y aller
non,
le plus
parce
doucement
que,
possible.
Quelquefois les ruches, pour prévenir je suis là, mais elles le savent je suis là. Parce qu'il faut savoir que l'abeille, lorsque vous enfumez, je vois des... Quand les gens enfument, comme ils enfument les ruches, ça me fait peur. Vous voyez plus la ruche, vous voyez que la fumée. Il faut savoir que l'abeille, à poids égal à l'homme, a 1000 fois plus de besoin d'oxygène que vous.
Ah, petite mère, alors effectivement, c'est violent, cette enfumage.
C'est très violent, et c'est de là qu'elles prennent l'agressivité pour vous piquer.
D'accord.
Et en plus, si vous crachez de la fumée jaune qui est chaude, alors là, vous les rendez vraiment excités. C'est pour ça qu'il faut la sagesse d'aller dans le chemin des abeilles.
Avec douceur et respect.
Douceur, mais si la ruche est agressive, elle vous le montre, vous la fermez, vous revenez le lendemain. C'est ça l'apiculture. C'est pas de dire, je le fais quand même parce que moi je commande. On commande rien. Un jour ou l'autre, on sera commandé.
Alors, on revient donc sur cette fête de l'abeille. C'est la deuxième, hein, parce que déjà l'année dernière, vous aviez mis ça sur pied. Là, cette année, ça se déroule le dimanche 8 octobre. C'est entrée libre. Ça se passe donc à Lédignan. À quel endroit, Maurice ?
Ça se passe au foyer de Lédignan, là où il y aura tous les exposants.
D'accord. Alors, la journée, elle commence à 10h avec nombreux exposants.
Je tiens à dire quand même qu'on a fait la première en 2016 et il y a eu un succès, puisque pour une première, on a fait 500 entrées.
Ah oui, oui, il y a eu du monde.
C'est pour ça que j'ai décidé avec mon équipe de la reconduire.
Très bien. Alors là, la première conférence, c'est Louis Julien, on en parlait tout à l'heure, qui va nous parler de la viticulture.
La viticulture, pour prouver qu'on peut faire autre chose en viticulture aussi.
Mmh.
Ben, il y en a bien qui le savent, puisque sur des petites des villages où demain je vais être, les gens sont en bio.
Tout à fait, oui, là sur la région, entre les Ans, Cardet, tout ça, il y a beaucoup
Martillargues,
de
Tornac.
Voilà.
Donc, il y a
ça avance beaucoup du point de vue de l'agriculture.
Alors,
et de la viticulture bio.
Alors ces gens-là, il faut leur tendre la main et aller dans leur sens.
Tout à fait. Et
aider.
Surtout peut-être les écouter aussi pour comprendre les techniques qu'ils ont mis en place pour que ça fonctionne. Donc Louis Julien est une personne vraiment ressource sur cette question de la viticulture durable, sans chimie organique de synthèse. Donc pour l'entendre, c'est à 11h, donc à la fête
foyer.
De l'abeille au foyer de Lédignan.
À la salle des Lavoirs, là, les conférences.
Ah, c'est la salle des Lavoirs, les conférences.
Oui. Le foyer, c'est toutes les expositions, les animations et tout
ça.
Ah,
ça se passe sur deux lieux, alors.
Oh, bah, oui, dans le village, quoi.
D'accord.
On fait tout à pied, hein, pas
donc,
de voiture.
Très bien. Donc, salle des Lavoirs pour la conférence de Louis Julien à 11h. Il y aura une autre conférence à 14h. Alors là, c'est le photographe Éric Tourneret qui fait des clichés sublimes sur les abeilles, ce monsieur.
Oui. Donc il est venu photographier mes ruches ici à Lédignan. Éric, c'est un ami aussi.
Mmh. Il sillonne le monde, hein. Il fait des clichés impressionnants, là on en a un.
Vous trouverez le livre qui va sortir, Le génie des abeilles, là. C'est un autre bel ouvrage qui sort après Les routes du miel et qui sera en vente sur le stand d'Abeilles et Sagelles. Voilà les routes du miel.
Et enfin, donc à 16h, c'est un monsieur spécialiste de l'apithérapie, parce que ça, c'est quelque chose dont on parle pas assez, très certainement. Mm-hmm. Mais les abeilles sont des alliés dans la santé humaine et on peut se soigner grâce à l'apithérapie.
Le spécialiste mondial.
Cette question-là qui sera là. Il est de quelle origine, ce monsieur ?
Roche-Domérigo. C'est un monsieur, il est apiculteur aussi. Hein. C'est un apiculteur.
En France ?
Oui, il est français, oui.
D'accord, très bien. Et donc, il nous expliquera comment on peut se soigner grâce aux abeilles.
C'est
mystérieux, ça. C'est de l'ordre un petit peu dans la même veine que l'acupuncture, mais sauf que là, c'est naturel, c'est grâce aux abeilles.
C'est quelqu'un qui parle aussi, moi j'ai préféré qu'il parle de l'apithérapie, mais des abeilles aux yeux bleus des Mayas à l'époque.
Il aura plein de choses à nous apprendre en tout cas. Donc, je résume, à 11h, Louis Julien pour la conférence sur la viticulture durable. À 14h, Les routes du miel par le photographe Éric Tourneret, ça sera une conférence projection de ces clichés. Et ensuite à 16h, tour du monde de l'apithérapie avec Roch Domérigo. Voilà, tout ça, ça se passe donc le 8 octobre à Lédignan, sur le village, entre donc la salle du Lavoir pour les conférences et le foyer pour toutes les expositions et animations et différents stands. L'entrée est libre et on vous attend nombreux. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le www.abeille-et-sagesse.com abeille-et-sagesse.com. Merci beaucoup Maurice Rouvière
pour
cet échange, c'était passionnant et j'espère que nos auditeurs et auditrices regarderont les abeilles d'un autre œil.
Oui, j'espère aussi, c'est ce que je dis toujours, il faut changer les consciences.
C'est très important et ça commence par le changement individuel.
Ah oui, ça c'est sûr.
Bonne continuation en tout cas et merci pour votre travail.
Merci à vous.
Au revoir.
My gang will get you.
Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les lundis, une semaine sur deux, le matin ou le soir, soit 8h30, 9h30, soit 18h30, 19h30 sur Radio 16. Toutes les émissions sont également écoutables quand vous voulez sur radio16.net.